BDO.
Je me suis toujours dit que j'allais quand même travailler dans l'entreprise familiale. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai commencé donc dans des magasins d'optique à Madrid. Le cœur du fonctionnement de notre entreprise, c'est clairement dans la relation que nous avons avec les franchisés. On peut avoir un bon produit, un bon prix, très bonne communication, bon magasin. Si le service est mauvais, tout ça n'a aucune valeur.
Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Anthony Afflelou, le PDG du groupe du même nom, entreprise familiale devenue un leader mondial des produits d'optique et d'aide auditive. 50 ans après l'ouverture du premier magasin Afflelou par son père Alain, Anthony a repris le flambeau pour continuer à révolutionner le secteur avec une approche moderne et innovante. Anthony a 32 ans, il est diplômé d'une école de commerce à Bordeaux et spécialisé en communication digitale. Il a débuté sa carrière en 2014 chez Tids, spécialiste dans le domaine des vidéos publicitaires en ligne, avant de rejoindre le groupe familial en 2015 et finalement être nommé en 2022 PDG du groupe. Salut Anthony.
Bonjour Arnaud.
Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir faire cet épisode. Je suis très curieux de connaître un peu plus sur le groupe, puis bien sur ton parcours. T'es un jeune dirigeant et on va essayer parler de sujets qui moi me tiennent à cœur et que j'aborde dans tous les podcasts sur le leadership, la manière d'engager des équipes et puis un peu ta vision du global de la société. Ça te va comme programme?
Très bien, merci pour l'invitation.
Écoute, avec plaisir. Peut-être première question, si on parle de tes origines, dont je crois que tu as été bercé dans le groupe toute ta jeunesse, à quel moment, est-ce que ça a toujours été tracé pour toi, l'entreprise familiale, et finalement le projet d'en prendre un jour la tête, ou ça s'est fait comme ça, petit à petit?
Pas forcément, ça s'est fait petit à petit. Alors évidemment, j'ai grandi en voyant l'entreprise bien évoluer. Pour la petite anecdote, quand j'étais très jeune, j'ai tourné dans la première publicité Chin Chin.
Ouais, t'avais 7 ans, c'est ça?
Ouais, voilà, ouais. En 99. Mais il n'y avait jamais eu l'obsession de rejoindre l'entreprise ou forcément d'avoir des hauts postes dans l'entreprise. Ça s'est plutôt fait par opportunité. Après mon année en 2014, quand j'avais rejoint Tiz, mon père m'a proposé en tout cas de rejoindre le groupe dans un magasin d'optique à Madrid. Et je me suis dit que ça pouvait être... bien de découvrir l'entreprise, découvrir le métier d'opticien, et puis dans un nouveau pays, une ville comme Madrid.
Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de l'évolution du groupe avant qu'on parle de ton projet pour l'avenir?
Oui, bien sûr. Donc, mon père a ouvert son premier magasin en 1972. C'était au Bousca, c'est une banlieue de Bordeaux. Et le premier magasin s'appelait Optica. Et à l'époque, le monde de l'optique était assez médicalisé. On rentrait chez des opticiens comme on pouvait aller chez des pharmaciens, c'est-à-dire que les opticiens étaient en blouse blanche, prescrivaient littéralement des lunettes qui n'étaient pas en libre-service dans des magasins comme aujourd'hui. Et mon père a eu l'idée de lancer le discount dans l'optique en faisant de la communication, enfin lançant des offres commerciales, ce qui était assez inédit au début des années 70. Et suite à ça, en fait, il a eu pas mal de succès dans son magasin du Bousca. Il a eu l'opportunité d'ouvrir 2 magasins supplémentaires à Bordeaux. Et le succès qu'il a eu a intéressé des opticiens de la région qui lui ont demandé quelles étaient ses recettes. Et il leur a dit « je peux vous raconter, mais c'est pas gratuit ». Et de là est née en fait la franchise en optique. Aujourd'hui, nous avons 1500 magasins dans le monde, plus de 800 en France, 380 en Espagne et une cinquantaine de magasins en Belgique, Suisse et Portugal. On a aussi un peu une présence dans les pays d'Afrique francophone, notamment au Maroc, on a près de 30 magasins.
Si on en revient à toi, donc tu le disais, 7 ans, tu participes à une pub Chin Chin. T'es parti en école de commerce, c'était une voie comme ça. Ou quand même, derrière, tu te disais, tiens, j'ai potentiellement ça. Le groupe commençait à se développer. Et tu te gardais ça comme une porte ouverte ou
Oui, je me gardais ça comme une porte ouverte. Je me suis toujours dit que j'allais quand même travailler dans l'entreprise familiale. Mais après mes études, j'en faisais pas une obsession. J'ai même rejoint une entreprise à Londres dans la publicité digitale, donc rien à voir avec l'entreprise. Mais quand j'ai eu l'opportunité d'y travailler, j'ai eu beaucoup de plaisir en fait à être curieux. Et donc, pour moi, ça a été assez naturel de saisir les opportunités et puis de me dédier beaucoup dans mon travail au sein de l'entreprise.
Comment s'est passé ton parcours dans l'entreprise entre 2015, le moment où tu le rejoins, et 2022, ta nomination à la tête?
Donc j'ai eu pas mal d'étapes. J'ai commencé donc dans des magasins d'optique à Madrid. J'ai appris le travail d'opticien, mais aussi de commerçant, qui est assez exigeant, puisque les vendeurs en magasin, ce sont ceux qui représentent la marque. Il faut souvent être au top devant les clients pour représenter la marque, même si on a des clients qui peuvent avoir des personnalités différentes. Et ce qui est très intéressant dans le métier de vendeur, c'est qu'on a le résultat direct de notre travail, à savoir si on a vendu ou pas. Donc la courbe d'apprentissage est assez rapide. Suite à cela, j'ai rejoint nos équipes à Genève, où j'ai deux de mes frères, d'ailleurs, qui travaillent dans les bureaux à Genève. J'ai travaillé pour le développement international. Nos magasins à Fleurloup vendent des produits de toutes marques, mais aussi des lunettes griffées à Fleurloup. Et il fallait vendre ces produits dans des pays où on n'avait pas de magasin. On n'est pas présent en tant que franchiseur. L'idée, c'était de pouvoir justement entrer dans de nouveaux marchés via le produit. Et très intéressant, on s'est rendu compte que cette stratégie n'a pas fonctionné, pour te dire, puisque rentrer dans un nouveau pays où on n'est pas connu et où on est en compétition avec 1000 autres marques de lunettes, c'est compliqué. Par contre, rentrer dans un pays en se positionnant comme leader européen de la franchise en optique, c'est bien plus simple. Donc, ma mission a rapidement changé de vendre des lunettes à vendre la franchise à Fleurloup à l'international. Suite à cela, en 2018, j'ai dirigé la transformation digitale du groupe. Donc, c'était très intéressant puisqu'à l'époque, il s'agissait d'étudier toute la chaîne de valeur de l'entreprise et de comprendre où incorporer des nouvelles technologies et du digital pour pouvoir améliorer justement cette chaîne de valeur. Donc, avant de changer ou de modifier ou apporter de l'impact sur l'organisation, il faut bien comprendre. Et là, cette mission, en tout cas, qui a duré pendant 10 mois, m'a permis de mieux comprendre l'entreprise. Suite à cela, j'ai travaillé à Londres pendant près de 2 ans et demi avec mon père et j'ai été directeur du marketing pour l'optique et l'audio. Donc, ça a été passionnant de pouvoir justement découvrir le métier de marketing. Au sein de mon père, qui est forcément, on va dire que c'est son domaine, il s'y connaît beaucoup. Donc, ça a été très inspirant aussi pour mieux comprendre la philosophie de notre marque. Tout ce qu'on fait, c'est à partir de la compréhension des besoins de nos clients. Et on innove à partir de la compréhension du besoin de nos clients. Donc, vraiment, quand on dit on est focus client, c'est que toutes nos initiatives partent de la compréhension de ces besoins. Donc, ça a été très formateur pour moi. Et puis, suite à cela, j'ai été nommé directeur général du marketing et de la communication au niveau du groupe avant de prendre la présidence en juin 2022.
Cette évolution au sein du groupe, donc entre l'international, diverses fonctions, là, ça me donne envie de te poser la question sur d'éventuelles difficultés que tu as pu avoir en portant ce nom-là. Est-ce que tu as souffert à un moment donné d'une crise de légitimité ou même toi, à titre personnel, d'être le fils du fondateur ou est-ce que ça t'a rajouté une pression particulière?
Non, pas du tout. Et vraiment, je le dis sans langue de bois, c'est-à-dire que très important de rester soi-même. Après, évidemment, il peut y avoir autour de soi des avis en disant « Ah, avec le nom à Fleurloup, ça peut être plus simple ou plus dur », mais en vérité, ça, je ne me suis jamais trop posé à ces questions. J'ai eu beaucoup de plaisir à évoluer dans l'entreprise, donc j'ai saisi les opportunités que j'ai pu avoir en respectant mes collaborateurs, les personnes qui travaillent autour de moi et en donnant, en tout cas en essayant toujours de donner le meilleur de moi-même. Donc à partir de là, il n'y avait pas trop d'espace, on va dire, dans mon esprit pour me poser des questions sur la perception des gens concernant mon nom de famille.
Si on en revient au business model du groupe, tu le disais, les 3 premiers magasins donc, étaient en propre et donc est venue de la question des gens qui s'intéressaient à ce business, l'idée de la franchise. Tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent réellement comment ça fonctionne?
Alors, nous, on a 90% de nos magasins, les 1500 magasins, c'est sous la franchise. Donc, comment ça fonctionne? On a un opticien ou un audioprothésiste qui souhaite avoir l'enseigne Alain Fleurloup sur la devanture de son magasin. Et en échange de l'enseigne Alain Fleurloup, il doit respecter certaines règles, notamment sur le concept de magasin, d'avoir aussi un respect sur la politique commerciale, sur les produits. On ne peut pas rencontrer ou avoir n'importe quel type de produit dans nos magasins. Ce sont des produits de qualité, de la marque à Fleurloup et aussi d'autres marques. Et le respect de la communication. On est une marque qui communique beaucoup. On est notamment numéro 1 depuis un certain temps en termes de notoriété en France. Et là-dessus, notre réseau de franchisés doit y adhérer. Donc, c'est un savant mélange, on va dire, entre le respect et la liberté de l'entrepreneur franchisé qui connaît bien sa zone de chalandise, qui connaît bien ses clients, et le travail justement sur la connaissance de sa zone de chalandise lui permet d'être performant. Et puis des initiatives nationales et différenciantes que nous avons autour du concept magasin, produits et communication.
L'opticien reste un entrepreneur, il est patron de son entreprise, il bénéficie des services centraux, avec forme de rétrocession, enfin paiement d'un royalty au groupe. C'est comme ça que ça
fonctionne. Exactement, ça fonctionne comme ça. Nous, le cœur du fonctionnement de notre entreprise, c'est clairement dans la relation que nous avons avec les franchisés. On a des franchisés qui ont clairement permis le développement de l'entreprise, qui sont là depuis la création de la franchise, depuis près de 50 ans, qui ont d'ailleurs légué leur magasin ou leur patrimoine à leurs enfants. Et pour nous, c'est vraiment un gage de réussite et de pérennité dans l'entreprise. On évoque souvent que le groupe Afflelou a des valeurs familiales, mais ça ne se limite pas du tout à la famille Afflelou. C'est vraiment l'histoire de nos franchisés qui lèguent leur réussite aussi à leurs enfants pour certains. Donc on en est très fiers.
Aujourd'hui, tu le disais, donc vous êtes premier en Europe sur la franchise.
Oui.
Vos principaux marchés, je crois, sont Belgique, France,
Espagne, Suisse et Portugal.
Et après, dans les autres pays, même modèle, en fait
ou... Même modèle. En fait, on est 100% en franchise en dehors d'Europe et on est présent au Maroc, en Algérie, au Moyen-Orient aussi, où on a une master franchise, en Europe de l'Est, avec des pays un peu plus atypiques comme la Géorgie, et puis aussi en Asie du Sud-Est. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des pays avec des réalités de marché qui sont très différentes. Et ça montre quoi? Ça montre qu'on a un business model qui est relativement universel et qui s'exporte. Le modèle de franchise, d'ailleurs, permet de s'exporter de la sorte.
Alors, tu parlais de la communication, puis tu as occupé ces fonctions-là au sein du groupe. Et je lisais dans différents articles que ton père était reconnu pour ses talents de communicant et tu disais que ça a été quand même un axe fort de la réussite du groupe. Quand j'y réfléchissais, je me disais, c'est vrai que finalement, c'est vous qui avez introduit un peu le côté look des lunettes de vue, qui avez aussi beaucoup démocratisé le changement de père, enfin, avec des offres assez agressives. Tu peux nous en dire un peu plus hein, sur...
Démocratiser et rendre accessible, c'est clairement notre ligne directrice. Et mon père, dans la communication, il s'est toujours adressé aux téléspectateurs comme si c'était des clients. Et il est totalement légitime de le faire puisque son métier, c'est opticien et audioprothésiste. Donc, il s'adresse aux clients en tant que professionnel. Donc, l'accessibilité, la dédramatisation, c'est dans notre ADN. Dans les années 70, je parlais d'un monde assez médicalisé qui était celui de l'optique. Aujourd'hui, on se pose même plus de questions, on pourrait voir les lunettes comme des accessoires, mais ce n'était pas le cas. Dans les années 70, la première publicité du groupe, d'ailleurs, c'était l'opticien nouvelle génération. Où mon père retirait sa blouse, sa perruque, et puis il se présentait comme un opticien sans blouse et prêt à délivrer et à rendre accessibles les lunettes. On a sorti la même chose d'ailleurs en 2011 avec notre enseigne Acousticien. D'ailleurs, notre enseigne s'appelle Acousticien, Alain Flou Acousticien, et pas audioprothésiste. Le terme acousticien va exactement dans cette stratégie de dédramatiser les produits que nous proposons.
Sur cette diversification sur l'audio, d'où est venue l'idée? Tu disais que ton père, finalement, avait les deux compétences, donc comme ça, on peut le comprendre. Mais en quoi est-ce que les activités créent des synergies et comment ça a contribué, finalement, à la croissance du groupe?
Donc, toutes les initiatives que nous prenons, c'est par la connaissance de notre métier. Et effectivement, de formation à l'influx et audioprothésiste, donc ça fait sens. Et au-delà de ça, 100% des personnes qui ont besoin d'aide auditive, ça s'appelle la presbyacousie, c'est passé 65-70 ans, sont ce qu'on appelle presbytes, donc ont besoin d'une correction pour voir de près, et donc ont besoin de lunettes. Donc le début de la naissance de l'enseigne Alain Flelou Acousticien, on a eu des espaces audio dans des magasins d'optique. Donc ça a été clairement une opportunité au niveau de la synergie. Maintenant, on s'est développé à une vitesse très importante, puisqu'en l'espace de 10 ans, on a plus de 380 magasins d'audio en France, dont une centaine qui sont uniquement exclusifs à l'audio. Donc, on y croit effectivement très fort. Il y a une véritable synergie au niveau de la clientèle. Et même plus globalement, nous, notre mission, ce n'est pas uniquement de parler d'audio à des personnes qui ont besoin d'aide auditive, mais parler de prévention auditive à toute la population française.
C'est encore un sujet tabou?
C'est un sujet relativement tabou, puisque... En moyenne, on estime à 7 ans la durée entre la première perte auditive et le port des aides auditives. Et en général, les personnes qui ont besoin d'aides auditives mettent du temps parce qu'on parle même plus communément de prothèses auditives. Donc nous, ce sont des termes qu'on proscrit. On préfère le terme aide auditive. Prothèse, c'est très médicalisé et assez segmentant. Donc c'est encore un sujet tabou. Mais on a plein de perspectives qui sont exceptionnelles au niveau de l'audio, puisque ce sont des appareils qui sont à 100% dédiés sur des développements de nouvelles technologies. Et quand on parle de dédramatisation et de rendre accessible, clairement la nouvelle technologie a un rôle à jouer. Donc ce qui est intéressant par exemple, et on peut le voir, la vitesse dont s'est démocratisé les AirPods. Aujourd'hui, il peut être très courant d'avoir des objets connectés à l'oreille qui sont sans fil. Si on regarde il y a 3-4 ans, c'était pas autant démocratisé. Donc, on passe justement dans le monde médical de l'audio d'un aide auditive à maintenant un assistant de santé qui permet, au-delà d'une meilleure écoute, de permettre plein de fonctionnalités sur connecter l'aide auditive au téléphone, calculer le nombre de pas, évaluer la santé cognitive des individus. Et tout ça, ce sont des données de santé et des services qui sont très forts, en tout cas pour les personnes seniors.
Tous les produits à Flelou, que ce soit optique ou audio, c'est vous qui les produisez ?
Non, pas tous. Alors, tous les produits en optique qui sont à Flelou, on les produit. En audio, c'est plus particulier puisque là, on fait des partenariats avec des fournisseurs pour pouvoir mettre notre nom à Flelou sur leurs produits. Et en fait, sur l'audio, c'est comme si on demandait, je fais une comparaison, à Boulanger, par exemple, d'avoir ses propres iPhones. Ben non, il va vendre les iPhones dans ses magasins. Et nous, c'est pareil avec les appareils auditifs, puisque c'est un autre métier de produire des aides auditives.
Tu disais dans ton parcours que tu as été chargé de la transformation digitale du groupe.
Mm-hmm.
Est-ce que tu peux nous dire comment les nouvelles technologies, comment la digitalisation a impacté un business comme le vôtre ?
Alors, nous, ça a vraiment beaucoup impacté le business et même l'organisation. Parce que en l'espace de 3 ans, on est passé d'une équipe digitale qui s'occupait des sites Internet, la gestion du site Internet en termes de contenu et de visibilité, à une équipe de 40 personnes avec du CRM, des projets omnicanaux, de la digitalisation en magasin, de l'e-commerce, de la data, même du développement IT. Donc, on s'est énormément développé. Et typiquement, il y a quelque chose qui a un peu révolutionné le secteur de l'optique ces dernières années. Au niveau de l'omnicanalité, c'est la prise de rendez-vous en ligne. On a eu, lors du premier confinement, tous les magasins étaient fermés en France. Et on va dire que le premier confinement a pu avoir de bon d'accélérer certaines innovations et initiatives, puisque à la réouverture des magasins, nous nous étions dit que la prise de rendez-vous en ligne était absolument nécessaire pour des raisons sanitaires. Donc, le service a été déployé pour l'ensemble de nos magasins. Et en fait, on n'avait pas pu imaginer, mais même après la fin du premier confinement, ce service continue d'être très fort et représente maintenant presque une norme sur le marché. Donc, les évolutions de consommation apportent forcément l'accélération de l'innovation. Et nous, on est en plein dans l'omnicanalité au niveau du digital.
Cette période du Covid, tu disais, donc ça a permis d'accélérer sur certains sujets. Comment tu l'as vécu, toi, en tant que dirigeant ?
Ça a été très particulier, puisqu'il y a eu des situations hétérogènes. On est aussi dans nos systèmes de franchise, donc la relation qu'on a avec nos franchisés, c'est basé sur, évidemment, des relations humaines basées sur la confiance. Donc, il fallait donner de la perspective à nos franchisés. Et on s'est posé beaucoup de questions. On s'est demandé, pendant la fermeture de nos magasins, comment allait être la reprise. On s'est d'ailleurs demandé s'il fallait continuer de communiquer à leur ouverture, puisqu'il y avait des nouvelles qui étaient terrifiantes et terribles avec le nombre de morts qui étaient annoncés chaque soir en France. Et on s'est dit, mais on ne peut pas continuer de communiquer, la situation est trop terrible. Et en fait, le grand enseignement qu'on a eu, c'est qu'en période d'incertitude, il faut surtout se baser sur nos certitudes. C'est-à-dire que toutes les recettes qui font et qui ont fait qu'on est référent en optique en France, on doit les garder et appuyer dessus de façon encore plus forte quand le contexte est incertain. Donc, quand nos magasins ont réouvert, on a communiqué sur notre service de prise de rendez-vous en ligne, on a continué de communiquer en vendant de la joie, de la bonne humeur et de la gaieté aux Français à la réouverture des magasins, et ça a marché.
J'aime bien, là, je vais reprendre la phrase que tu as dit, parce que c'est un peu ce que je recherche aussi dans ces podcasts, c'est à chaque fois d'avoir une leçon de dirigeant. Donc, si je la répète, tu veux dire, donc, dans les périodes d'incertitude, il faut se concentrer sur ces certitudes.
Oui.
Quelles sont les certitudes aujourd'hui du groupe Flelou, et en cas de tremblement sur une autre catastrophe qui pourrait arriver, c'est quoi vos fondamentaux aujourd'hui ?
Le service, on va dire, c'est la chose la plus importante. On a des recettes qui tournent autour de la compréhension des besoins de nos clients, le fait d'apporter des produits ou des solutions nouvelles, et que pour que ces produits ou solutions nouvelles existent, il faut communiquer et les faire savoir. Ça, on va dire, c'est nos certitudes absolues. Ce qui arrive au-dessus de tout ça, c'est la notion de service. Notamment quand on est commerçant et quand on accueille nos clients chaque jour dans les magasins. On peut avoir un bon produit, un bon prix, une très bonne communication, un bon magasin. Si le service est mauvais, tout ça n'a aucune valeur. Et à l'inverse, le service, prendre soin de nos clients, ça permet de magnifier tout le reste. Donc on a, on va dire, des piliers, des valeurs que j'ai pu écrire, et puis là-dessus, c'est toujours d'être centré sur le client et d'être centré sur prendre soin du client. On peut, dans la vie de tous les jours, quand on a des entreprises relativement importantes, s'éloigner de ces sujets-là, parce qu'on va penser beaucoup au marketing, aux nouveaux produits, on va beaucoup penser à l'omnicanalité, bref, à plein de choses qui peut-être un peu nous éloigner de la relation directe avec le client et du service qu'on doit avoir avec lui. Donc, nos convictions, en tout cas chez Alain Flelou, c'est clairement prendre soin du client et la notion de service est clé.
Comment tu le contrôles, ça, toi, en tant que franchiseur? Quelle vision tu as là-dessus, sur la manière dont ça se passe concrètement dans les magasins? Et entre guillemets, quelle pression tu mets, positive comme négative, mais pour t'assurer que finalement tout le monde reste dans le cadre et que le niveau de service est le même que j'aille chez un franchisé ou chez un autre?
On a une équipe au siège composée d'une dizaine de personnes, qui est le service client et qui reçoit justement toutes les demandes de clients qui peuvent s'adresser plus ou moins directement aux franchisés. D'ailleurs, c'est une vraie fierté pour nous puisqu'on a été élu cette année, pour la 8e année consécutive, meilleur service client de l'année dans notre catégorie. Donc, on a une exigence qui est forte au niveau du service client. La deuxième chose, c'est évidemment les convictions. C'est-à-dire, les convictions, ça ne concerne pas que moi, ça concerne l'équipe de direction et ça concerne toute l'entreprise et les franchisés. Quand on accueille un nouveau franchisé dans l'entreprise, on a de la formation et puis la notion de service, on explique en quoi elle est totalement clé. Donc, il y a clairement un alignement de toutes les parties prenantes sur la notion de service.
Quelle est la boussole, en fait, la raison d'être que vous donnez réellement la mission? On avait parlé de la démocratisation, et peut-être si on regarde maintenant sur l'avenir, quelle est la mission que vous vous donnez, que vous l'ayez formalisée comme ça ou pas, et quelles sont les prochaines étapes, en fait, pour le groupe?
La mission jusqu'à présent, c'était de rendre accessibles les lunettes et les aises auditives. Moi, je crois fortement à l'évolution de notre mission, qui va être de rendre accessible et démocratiser l'accès à la santé visuelle et auditive. On est sur un sujet qui est beaucoup plus large que les produits seulement de lunettes ou d'aides auditives. On a de la prévention, véritablement de santé, et typiquement ce qu'on a fait qui va dans ce sens récemment, on a été les premiers à lancer la téléconsultation ophtalmologique. Donc là, on est clairement dans une mission qui est la démocratisation de l'accès à la santé visuelle. Donc dans certaines zones en France, on peut avoir des délais d'attente aux ophtalmos qui excèdent 6 mois, 1 an.
La problématique des déserts médicaux.
Des déserts médicaux, donc c'est une vraie problématique client. Et on est les premiers, c'est dans 150 de nos magasins aujourd'hui, à pouvoir permettre de faire une visio avec un ophtalmologiste connecté à distance pour les clients qui habitent dans des zones difficiles d'accès. C'est une vraie avancée et ça traduit aussi concrètement l'évolution de notre mission qui est de rendre accessible la santé visuelle et auditive.
Comment ça s'organise avec l'ordre des médecins, avec les ophtalmos?
Nous, on n'est pas du tout en contact direct avec les ophtalmos. Ce serait un conflit d'intérêts. On travaille avec une entreprise qui fournit la technologie de visio. On a d'ailleurs travaillé pendant plusieurs années pour comprendre comment l'objet de réfraction qui permet l'examen visuel et la machine de dépistage qui permet de détecter d'éventuelles pathologies puissent être connectés à cette borne où il y a l'ophtalmo en visio, qui permet de guider le client lors de sa consultation. Donc, c'est clairement l'entreprise qui fournit la technologie, qui recrute des ophtalmos en direct. Ils sont tous en France. Et ça permet justement d'avoir cette solution. C'était assez intéressant, puisque quand on a d'ailleurs lancé ce service, on a pu avoir certains ophtalmos, notamment le syndicat des ophtalmos, qui étaient plutôt contre ce service. Mais ce qui a été très intéressant, c'est que maintenant, ce n'est plus un sujet, ça se démocratise. Et pour innover, pour avancer, il faut appuyer sur ses convictions et ne pas avoir peur de lever certaines barrières. Innover et être leader, ça passe par rencontrer des difficultés. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça.
J'aimerais, si t'en es d'accord, qu'on revienne sur toi plus personnellement. Donc toi, t'as été dans le groupe pendant longtemps. Là, ça y est, t'es nommé PDG, quand même dans un groupe où vous avez un fonds d'investissement au capital. Donc je dirais en termes de gouvernance, même si c'est une entreprise familiale, les parties prenantes, enfin l'entreprise s'est ouverte. Ça a changé réellement, toi? Il y a eu un avant, un après?
Forcément, puisqu'on déjà au niveau des préoccupations, des interactions aussi avec les équipes, le fait d'avoir une vision qui soit beaucoup plus globale, et puis aussi le plaisir de pouvoir mettre en place certainement un peu plus facilement ses convictions, font qu'il y a une vraie différence. Mais je le prends de façon très positive, évidemment. C'est-à-dire ce que je fais au quotidien m'anime beaucoup. J'ai des convictions qui me permettent de me projeter sur les années à venir dans l'entreprise et par rapport à l'évolution de l'entreprise. J'ai aussi des gens autour de moi, une équipe avec qui je m'entends très bien et sur qui j'ai une grande confiance. Donc tout ça fait qu'il y a un environnement qui est très positif, beaucoup de pression, du travail évidemment, mais beaucoup d'envie et beaucoup de positivité là-dedans.
C'est intéressant parce que tu as l'air hyper serein sur l'avenir, sur le rôle en tant que tel. Est-ce que tu as eu des moments de doute en fait dans ta carrière? Voire même depuis que tu as ces fonctions-là, j'ai tendance à répéter qu'on est toujours très fort pour dire ce qui va bien, mais un peu moins pour dire soit ce qu'on a moins bien fait ou éventuellement les doutes que l'on traverse. Est-ce que t'en as déjà? Et finalement, la pression, comment tu la gères?
Des doutes, oui, tout le temps. C'est dans le sens où il faut se remettre en question, être, je pense, assez humble dans les idées ou dans la manière de les développer. Et oui, évidemment, ce serait trop dangereux de se dire que tout ce qu'on a en tête, il n'y a aucun risque ou tout va fonctionner. Donc, des doutes, il y en a. Après, je pense que les convictions que j'ai sont plus fortes que les doutes. C'est ce qui me permet d'avancer. Mais la remise en question est hyper importante.
Comment est-ce que tu es entouré aujourd'hui? Est-ce que tu as changé des choses, en fait, quand tu es arrivé? Est-ce que t'as... Parce qu'il y a deux façons de faire quand on est nommé. C'est peut-être soit la continuité, et puis on observe, et puis on voit, soit... On modifie tout, et puis comment t'as fait, toi?
J'ai la chance, avant ma nomination, d'avoir eu plusieurs rôles dans l'entreprise. Je connaissais bien et je connais encore mieux l'entreprise. Après, la première chose que j'ai fait évoluer, c'est au niveau de l'organisation, et c'est de créer des pôles de compétences plus forts. Moi, je suis convaincu qu'en ayant des pôles de compétences plus forts, on peut recruter des personnes plus fortes. Et c'est en étant bien entouré, d'avoir une équipe forte, qu'on pourra aller plus loin. Donc concrètement, on avait un département du digital, un département du marketing, un département de la communication. J'en ai fait qu'un seul département pour créer une direction générale client et une personne qui est en charge donc du marketing, du digital et de la communication, avec trois directeurs sous cette personne. Idem pour les ventes. J'ai fait un poste de directeur général des ventes qui s'occupe de toute l'animation commerciale de nos magasins, que ce soit pour les franchisés ou pour nos magasins succursalistes, c'est-à-dire nos magasins que nous détenons en direct. Et puis, j'ai créé un troisième poste, là, via une promotion interne, qui est une direction générale de la finance et du back-office, où il y a quelqu'un qui a été nommé pour s'occuper de tout le contrôle gestion, comptabilité, le juridique et la DSI.
Ton père continue de jouer un rôle. Quelle est la relation que vous entretenez aujourd'hui?
Donc, il est évidemment toujours bien impliqué. Et il a un rôle de conseil essentiellement sur la stratégie de communication. On a une relation qui est très libre, que ce soit avec lui, mais aussi avec mes frères. Donc, on travaille très bien ensemble. Et ce sont, en tout cas pour ma part, des soutiens et des appuis hyper importants pour développer l'entreprise. On travaille plutôt régulièrement ensemble et essentiellement autour des sujets de communication et de marketing.
On en revient aux premiers amours.
Voilà.
J'interroge toujours les invités sur ce que je qualifierais des deux grandes ruptures là, qui frappent toutes les entreprises. D'un côté, la durabilité, puis l'arrivée de l'IA. Si on commence par la durabilité, quelle est ta vision là-dessus, la façon dont vous la traitez? Bon, déjà, l'enjeu se représente pour un groupe comme le tien. Toi, ta vision personnelle sur le sujet?
L'enjeu, il est maximal. Quelles que soient nos convictions, je dirais que c'est même un enjeu de survie, sans mauvais jeu de mots, pour les entreprises. On pouvait souvent se poser la question jusqu'à quel niveau il faut aller en termes de RSE. Nous, dans notre cas, je dirais qu'on a une chance, sans vouloir paraître opportuniste, c'est qu'on parle de santé visuelle et auditive. Donc, par nature, on est une entreprise qui est assez basée sur la RSE quand on parle de santé. On a aussi, dans le cadre des investisseurs, maintenant des normes qui vont rentrer à partir de 2026, où d'ailleurs les PNL financiers ne vont plus uniquement concerner des chiffres, mais aussi des critères de mesure RSE, comme par exemple la mesure des taux d'émission carbone. Donc, on a une certaine obligation d'agir, mais on n'a pas attendu ces obligations pour agir. Par exemple, on a une fondation, c'est la fondation Afflou, qui a été créée en 2002, et on fait du dépistage visuel et auditif. On organise avec nos franchisés des voyages en Afrique pour pouvoir rendre accessibles les aides auditives et les lunettes aux personnes plus défavorisées. On fait des préventions aussi dans des classes d'école. Donc, on a pas mal d'initiatives qui rentrent dans le sujet RSE, mais qu'on a lancé bien avant, on va dire, la normalisation de la RSE. Donc, on a, je pense, dans notre fonction de dirigeant, aussi une responsabilité très importante qui est sur la gestion du risque. Donc, ce serait être complètement inconscient, à mon avis, que de ne pas mettre beaucoup d'ambition et beaucoup de mesures autour de la RSE pour développer nos entreprises.
Pour comprendre le bilan carbone chez vous, le gros des émissions, ça doit être du scope 3 encore, dans un groupe comme le vôtre. Tu vois, quel est le levier que tu as pour réduire et pour faire du groupe un groupe plus responsable?
Il y a les produits qui sont dans le magasin. Au niveau du produit, ce qu'on a fait depuis 2 ans, on a rendu obligatoire pour tous nos magasins le fait de collecter des lunettes, lentilles et aides auditives. On va faire du recyclage. Tous les clients qui rentrent dans un magasin à l'Influlou, ils peuvent déposer leurs anciennes lunettes ou aides auditives. Ça, c'est important. On l'a mis de façon obligatoire dans le cahier des charges. La deuxième chose, c'est qu'au niveau du produit, on développe de plus en plus des produits qui sont en matière biodégradable, comme en huile de ricin. 100% de nos produits sont faits en huile de ricin. On a aussi, pour toutes les lunettes en magasin, des verres de démonstration qui sont en matière biodégradable. Donc, on fait pas mal de choses là-dessus. On a aussi, et c'est assez méconnu du grand public, mais les lunettes sont des produits bruts. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais la lunette avec les verres qui arrivent en magasin. Il faut souvent ajuster les verres, tailler les verres. Et ça consomme beaucoup d'eau. Donc, on met en place dans nos magasins justement des machines qui consomment beaucoup moins d'eau que les machines traditionnelles. Voilà. Donc, on a pas mal d'initiatives qui permettent de baisser notre impact.
Hein.
Exactement.
Et si on en revient à la deuxième rupture que j'évoquais, donc l'arrivée de l'IA générative, comment ça impacte une activité comme la tienne?
C'est amusant puisqu'on va avoir justement un que dire sur le sujet. Pour l'instant, il s'agit beaucoup de convictions, c'est-à-dire qu'on est encore dans l'incertitude de savoir quel va être l'impact sur les entreprises. À mon avis, il va être énorme. De la même manière, si je fais un parallèle qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des entreprises qui travaillent sans Internet, demain, on ne pourra pas avoir des entreprises qui travaillent sans l'intelligence artificielle. On parle beaucoup au niveau de l'organisation d'impact de l'intelligence artificielle sur des métiers créatifs, ce que je trouve assez surprenant, puisque la créativité humaine, j'aurais tendance à dire, c'est peut-être un peu plus subjectif que ce qui peut toucher le monde de la finance, par exemple. Donc, pour une entreprise comme la nôtre, il faut se tenir prêt. C'est encore difficile d'anticiper tous les changements qu'il peut y avoir, mais je suis persuadé qu'il y en aura beaucoup.
T'as un regret ou quelque chose où tu te dis dans ma carrière, j'aurais dû faire les choses différemment?
J'ai pas de regret. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est important au moment de décider. C'est souvent une question qui se pose. Est-ce qu'on va regretter la décision qui se prend? Si à cette réponse, j'ai un oui, je la prends pas. Mais j'ai pas de regret. Après, faire des choses que j'aurais pu mieux faire ou différemment, évidemment, mais pas au point d'avoir de regret.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent particulièrement? Enfin, tu vois, une personne, une chose. Enfin, comment est-ce que tu trouves l'inspiration?
Je fais beaucoup de musique.
Ouais, j'ai vu que t'étais passionné de musique classique, c'est ça?
Ouais.
Depuis toujours?
J'ai fait 15 ans de conservatoire de piano. Donc, on va dire que mon moment, alors je sais pas si je trouve de l'inspiration en jouant au piano, mais mon vrai moment de détente, d'évasion, c'est clairement le piano.
Et alors, ça me permet une excellente transition avec un sujet que j'aborde aussi avec tous les invités, c'est sur la question de l'équilibre vie pro-vie perso chez les dirigeants. Je pense qu'il y a un changement majeur qui s'est opéré, je pense, dans les jeunes générations, notamment sur la relation au travail. Parfois, quand je parle de QVT des dirigeants, on me regarde un petit peu en me disant « mais ça paraît comme ça antinomique, mais est-ce que toi, t'arrives à conserver un équilibre ?»
Oui.
Ouais, donc réponse franche, c'est intéressant parce que...
Oui, réponse franche.
Tu vois, comment est-ce que toi tu gères, parce que je pense qu'on a des jobs qui sont prenants. Est-ce que t'as, voilà, une recette ou des tips ou des moments que tu te conserves et que t'arrives vraiment à sacraliser pour ta vie perso?
je pense que chaque situation est assez particulière, donc je ne vais pas dire que j'ai des tips là-dessus, mais me concernant en tout cas, j'ai bien ancré que la semaine, je suis 100% dédié à mon travail et je l'accepte, donc je ne le subis pas, et que le week-end, j'ai le temps de faire un week-end normal, on va dire. Donc et ce rythme de vie-là me convient, et je n'ai pas de problème avec ce rythme-là, en tout cas, à subir les événements. Alors évidemment, il y a des moment où les choses sont plus compliquées en termes de rythme de travail, de pression, de présentation, de résultats. Il faut accepter ces moments et se dire que bah, ça fait partie du métier et surtout pas les subir. Et c'est pour ça que je réponds assez directement oui, j'arrive à bien gérer entre ma vie professionnelle et personnelle puisque je considère que je subis pas les événements.
Comment tu décompresses ? Comment tu y arrives toi-même ?
Je vois des amis, je fais du sport, je fais du piano, quelquefois je pars en voyage.
Notamment, enfin, t'as même eu un parcours très international, donc j'imagine que t'as beaucoup bougé, tu disais Madrid, Genève, Londres. Là maintenant, tu vis à Paris.
Oui.
Ça t'a pas impacté, ça, sur le plan, le plan perso ? Enfin, t'as toujours réussi à bien équilibrer
Je pense que c'est assez subjectif. C'est-à-dire que si je prends objectivement mon implication dans l'entreprise, bah oui, c'est tous les jours. C'est-à-dire les week-ends, je vais penser à ma semaine, je vais penser à comment va s'organiser mon travail, je vais avoir le réflexe de regarder mes mails. Ma famille m'aide beaucoup, puisque déjà quand j'ai grandi avec mes frères et mon père, on parlait pas de travail. Et puis là, même si on travaille tous ensemble, les week-ends, on peut être très bien ensemble sans parler de travail. Mais les choses se font de manière assez naturelle, et c'est très bien comme ça.
J'aime pas trop parler de l'âge du dirigeant parce que je sais que moi, quand on m'en parlait, ça me saoulait, mais je vais quand même devoir te poser la question. C'est effectivement jeune dirigeant. T'arrives à un poste où on pourrait dire au-dessus, qu'est-ce qu'il y a finalement? À seulement 32 ans. Est-ce que d'ores et déjà, tu as, je sais pas, un projet qui est calqué? Enfin, tu vois, c'est quoi la suite pour toi et comment finalement, quand on est dirigeant d'une entreprise comme celle-ci, qui est déjà un très grand groupe, moi, je sais que ça m'a quand même pas mal travaillé dès les débuts en me disant, est-ce que je vais faire ça pendant 30 ans? Et finalement, c'est compliqué aussi de se projeter déjà dans quelque chose d'autre quand tu viens tout juste d'être nommé. Tu t'es posé, toi, cette question à un moment donné?
Non, dans le sens où je me vois évidemment continuer avec, dans l'entreprise. Je me suis pas posé la question dans 20, 30, 40 ans où je serai. Je suis bien là où je suis et je suis très concentré et déterminé sur faire évoluer positivement l'entreprise. Et l'évolution, c'est pas uniquement concernant des résultats, mais c'est aussi sur la cohésion d'équipe, les collaborateurs, les franchisés, les clients. Donc, il y a toujours du quantitatif et qualitatif. Et moi, ma détermination et mon envie, c'est pouvoir faire évoluer tout cela positivement.
Alors justement, si j'allais voir tes collaborateurs là, et que je leur posais la question, c'est quoi le style de leadership d'Anthony ?
C'est toujours un peu compliqué, je trouve, de se juger soi-même. Mais je dirais que c'est plutôt fédérateur et cohésion d'équipe avant tout. Mes valeurs concernant le management, c'est clairement d'évoluer dans un état d'esprit de confiance, de respect. Ça peut être des valeurs qui sont très larges, mais moi, j'y vois de façon pragmatique, en fait, une conséquence très forte. C'est l'émission d'idées. Et la cohésion d'équipe autour de la valeur et du respect et de la confiance doit libérer les personnes, mais que ça soit au niveau du comité de direction, mais aussi de tous les collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise. Ma conviction, c'est que ce sont les idées qui font avancer, que généralement, c'est très dur, de faire un one-shot sur une idée, c'est-à-dire une idée sort et elle est géniale. Et donc, pour ça, il faut en avoir un maximum. Mais pour que les gens soient libérés pour prononcer des idées, il faut que le climat de respect et de confiance soit partagé.
Tu as une manière de faire un peu particulière là-dessus, parce que tu disais, en plus, ton groupe a quand même innové très largement dans son secteur. Il y a eu des offres qui étaient assez nouvelles et qui ont vraiment impacté le marché. On parlait de la communication. Je pense que vous avez été les premiers à communiquer de cette façon. Moi, j'en parlais finalement des dirigeants qui incarnent une marque, même si elles portent leur nom là dans le cas, mais qui l'incarnent en étant voilà, sur les publicités, etc. C'était assez nouveau. Ces idées-là, elles germent comment dans le groupe ?
Non, c'est assez instinctif, mais c'est avant tout le travail d'équipe. Tout ne repose pas sur une seule personne. Tout n'est pas méthodique ou dans un process pour se dire là, on va innover. On ne sait jamais vraiment quand on va innover, d'où l'importance d'ailleurs de pouvoir émettre des idées et puis de les faire évoluer. Mais tout n'est pas calculé, loin de là.
Aujourd'hui, vous avez un fonds d'investissement au capital qui détient 40%.
70%.
70%.
71% pour être précis.
Comment ça se passe en fait dans la gouvernance et dans la gestion avec le fonds? Et la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est voilà, dans une entreprise familiale dont la famille est encore à la tête de l'entreprise, mais qui n'a plus le contrôle à contrario d'un point de vue voilà, capitalistique. Est-ce que c'est une difficulté particulière? Comment ça t'impacte? Au-delà de voilà, ce qu'on peut voir dans toutes les sociétés où on a des private equity au capital, mais tu vois, dans une entreprise familiale, et en fait, j'en discute beaucoup avec d'autres patrons, voilà, d'ETI, familiales, et qui sont assez réticents à ouvrir le capital pour des sujets, justement, de contrôle de la famille, de transmission, etc. C'est assez rare dans les entreprises familiales d'avoir un fonds qui a une telle participation, et tu vois, je pensais qu'ils étaient plus dilués que ça. Donc, comment ça se passe aujourd'hui?
Déjà, ma nomination, je la dois au fonds d'investissement. J'aurais pas été nommé s'il l'avait pas voulu. Donc, les choses se passent vraiment très bien au niveau de la relation avec le fonds. C'est une chance d'ailleurs. Donc, on est vraiment partenaires. Ils me font confiance dans le rôle et je leur en remercie et tout se passe très bien.
Je reviens un peu sur quelque chose que moi j'ai ressenti et que j'imagine beaucoup de CEO ont ressenti, un peu sur la solitude du dirigeant, qui plus est à nos âges. Tu vois, moi, typiquement, ça a été un sujet à un moment donné de dire, quel est le mentor, quelle est la personne au-dessus à qui tu peux parler de tes doutes, de tes interrogations, et je pense dans la prise de décision, on en a toujours. Quand tu deviens CEO, il n'y a plus grand monde au-dessus. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te touche? Comment tu le gères et comment est-ce que tu sors de cette solitude?
On m'en a beaucoup parlé avant ma nomination de la solitude du dirigeant. Après, j'ai peut-être un cas particulier puisque je travaille en famille. Ça aide beaucoup à moins se sentir seul. Mais aussi, je compte beaucoup sur mon équipe de direction. On a une grande confiance dans notre travail. On a une parole qui me semble en tout cas libérée. Et c'est très important aussi de pouvoir justement avoir ce type de relation. Bien évidemment, il y a des décisions qui me reviennent seules et par moments, ça peut être un peu compliqué de les prendre. Mais globalement, le travail d'équipe et puis le travail et la relation que j'ai avec ma famille m'aident beaucoup et me soutiennent beaucoup.
Une autre chose qui m'avait frappé, finalement, quand on accède à ces fonctions, c'est t'es pitché toute la journée par plein de gens qui veulent te vendre tout et n'importe quoi. Je pense que ton LinkedIn, ça doit être 500 sollicitations par jour. T'as une façon de le gérer, ça? Ça glisse complètement, tu portes pas attention?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de sollicitations. Après, je les regarde toutes, je fais des filtres. Soit je trouve la solution, la sollicitation hyper pertinente et intéressante, et puis là, j'y réponds. Soit sinon, j'ai un doute et je me dis qu'en premier abord, je n'ai pas directement le temps de me plonger dedans et je transmets à mes équipes.
C'est quoi la target pour le groupe Afflelou?
Clairement, c'est de continuer à ouvrir des magasins et de rester référent en optique et en audio et d'avoir toujours la confiance de nos franchisés.
Et alors, une question plus perso, est-ce qu'il y a eu un moment, une personne ou un moment dans ta carrière où tu as switché, entre guillemets?
Moi, le moment le plus charnière, c'était quand j'ai commencé dans le groupe. C'est-à-dire que quand j'étais à Madrid, que j'ai travaillé dans les magasins, en fait, la révélation, c'est que je me suis dit « Waouh, je suis hyper curieux et ça me plaît d'être curieux dans l'entreprise. » Et je me suis donné vraiment à fond. C'est-à-dire que je bossais du lundi en samedi en magasin. Là, la révélation que j'ai eue, c'est que je me suis dit « Waouh, j'ai envie d'en savoir plus, d'en faire plus. » Et c'est pour ça que toutes les opportunités que j'ai eues par la suite, on va dire, je les ai prises à pleine main.
On t'imagine plutôt rentrer dans le siège, dans des fonctions corporate, quoi. Pas forcément naturellement en magasin. J'ai l'impression que finalement, c'est un peu... assez souvent, ça se passe comme ça quand même dans les entreprises familiales. On commence vraiment par le terrain, on vous envoie là où vous mettez les mains dans le cambouis et vous apprenez le métier. Et que c'est finalement, ça plaît pas au départ, mais ça sert à la fin, quoi.
Ouais, c'est un peu cela. Moi, ça m'a assez plu dès le départ. Mais j'ai jamais eu d'obligation de pression. J'ai jamais eu d'obligation de travailler dans l'entreprise ou de me dire il faut absolument que tu commences par le travail en magasin. Non, ça a été toujours des propositions très simples et moi, je les ai j'ai choisi de les faire.
Vous avez jamais entendu, dès votre plus jeune âge, vous travaillerez dans l'entreprise familiale, il faut transmettre, il faut...
Non, pas du tout.
Eh ben écoute, je pense qu'on va rester là-dessus. Merci beaucoup Anthony d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était hyper intéressant, on aura eu les coulisses. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité. Salut Anthony.
Au revoir, merci Arnaud.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.